matin.
Bon matin. Alors, désolé de ce dernière minute. Merci beaucoup d'être avec nous.
Ben, ça fait plaisir.
Alors, c'est ta première fois sur En bas à gauche, qui est un peu la suite de Planète Internationale, où on avait écouté plusieurs fois tes chroniques préenregistrées.
Ben, c'est toujours un plaisir de participer à la radio communautaire de Montréal.
Alors, merci d'être avec nous. Et alors, qu'est-ce que tu nous as préparé sur le fameux sujet donc, qui a fait les médias un peu partout à travers le monde, mais comme perspective alternative sur la situation des mineurs qui ont passé 69 jours dans une mine?
C'était un commentaire politique, disons, un peu que je voulais faire à propos de ce qu'on peut voir à la télé, de ce qu'on peut ne pas voir à la télé. Car, disons que l'événement des mineurs chiliens a été couvert de manière faramineuse un peu partout dans le monde. C'est un événement médiatique global qui est dû à toute la globalisation des médias. Et c'est étonnant comme on peut voir en direct beaucoup de choses, mais en même temps ne parler de rien, ou souvent ne pas parler de l'essentiel, ou détourner les faits à l'avantage du spectacle et non à l'avantage de la compréhension des événements sociaux et politiques qui se trament derrière une catastrophe et une tragédie comme ça. La première chose, le premier commentaire que je voulais faire à propos de ça, c'est évidemment comment une tragédie ont été tournés en triomphe, en victoire. Évidemment, le succès, on ne va pas le nier, le succès, l'incroyable opération de sauvetage a été réussie avec une intervention de mineurs, du gouvernement, de personnes spécialisées dans le sauvetage, qui a été vraiment, qu'il ne faut pas nier, qui est un événement extraordinaire. Sauf que c'est quand même incroyable que on parle quand même de 33 personnes qui ont passé 3 mois dans le fond d'une mine, dans des conditions absolument inhumaines, et on en fait maintenant aujourd'hui quasiment des héros, et on les applaudit comme c'est quasiment comme si on pensait que eux autres, ils l'avaient fait pour la célébrité. La deuxième chose qui est assez étonnante dans cela, c'est que alors que tous les médias du monde ont su comment le gouvernement avait donné de l'importance aux conditions des travailleurs et à leur vie, etc. La même journée, exactement le même jour où les 33 mineurs ont été sortis de la fosse, au Parlement, au Congrès, a été votée une loi qui donne aux compagnies minières étrangères une exemption fiscale qui instaure comme une espèce de nouvel impôt volontaire pour les prochaines années, mais que s'ils acceptent d'avoir de ce nouvel impôt volontaire durant les 3 prochaines années, ils auront une exemption fiscale qui va leur servir entre les années 2014 et 2025. Alors, c'est quand même incroyable que exactement la même journée, le gouvernement ait l'audace d'un côté de sauver la vie à des mineurs, de l'autre côté, donner à vendre les compagnies minières à l'étranger. Et ça, c'est fait dans la même journée. Évidemment, la deuxième nouvelle est restée inconnue autant au Chili qu'à l'étranger. Évidemment aussi, il y a plusieurs choses qu'on a vues durant ces 2 journées de direct mondial pour le sauvetage des travailleurs qui se retrouvaient sous terre, à 700 mètres sous terre. Et là, on a commencé à parler de chacun d'eux à chaque fois qu'ils sortaient. Et les journalistes connaissaient leur vie entière. Ils savaient tous les détails de leur vie, de leur détails, de le nombre d'enfants, ce qu'ils avaient fait avant, etc., leur salaire. Et ensuite, même, on est allé dans les jours où ils ont sorti de l'hôpital, directement chez eux, dans leur cuisine, dans leur chambre à coucher, pour voir comment ils fêtaient leur miracle et leur sauvetage. Eh bien, c'est quand même assez étonnant qu'il y ait des détails qui sont passés totalement inconnus de la part du grand public. Entre autres, le dernier, le fameux capitaine, le dernier mineur qui est sorti, eh bien, on a, en général, dans les médias, su qu'il était orphelin, qu'il était un travailleur qui avait travaillé très fort pour faire vivre sa famille, etc. Puis ce qu'on n'a jamais dit, à l'inverse, c'est que pourquoi il est orphelin, qu'est-ce qui est arrivé à son père? Eh bien, son père et son oncle sont deux victimes de la dictature au Chili, ce sont deux exécutés politiques. Alors, c'est incroyable comment, ici, au Chili, c'est un détail qui a été inconnu. La plupart des personnes à qui j'en parle ne le savent même pas. Alors, on voit que, comme les médias, encore aujourd'hui, ils n'osent pas parler de l'histoire réelle du monde du travail, l'histoire réelle des travailleurs qui a été marquée par des événements si atroces que la dictature et la répression politique, et qui nous démontre un peu les conditions dans lesquelles vivent les mineurs ont toujours été difficiles au Chili, et ça depuis 30 ans, et ça n'a pas changé. Et un autre détail aussi, puis ça c'est sur la question, peut-être qu'on pourrait parler d'un autre mineur très connu qui était ce fameux travailleur qui était au centre d'un triangle amoureux construit par la presse qui s'est emparée de dire que sa maîtresse était venue chercher au lieu de sa femme, et puis qu'il était au centre d'un triangle amoureux, puis bon, qu'il avait tréché sa femme, etc. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce travailleur-là ne vivait déjà plus avec sa femme depuis plus de 5 ans, et qu'il vivait maintenant avec sa deuxième conjointe. Alors, pourquoi dire maîtresse? Pourquoi pas dire conjointe? Pourquoi ce traitement aux femmes des mineurs aussi qui a été fait? Puis pourquoi ne pas dire non plus qu'au Chili, la loi du divorce existe seulement depuis 4 ans? Ça fait depuis 4 ans seulement qu'on peut se divorcer légalement au Chili, imaginez-vous. Alors, ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Et comment que cette loi est tellement difficile à appliquer que la plupart des gens dans les milieux populaires n'ont pas l'argent pour payer des avocats et tout simplement ne se divorcent pas au Chili. Les gens ne se divorcent pas, même s'ils changent de compagne, de conjointe, et de conjoint, évidemment, et même s'ils entraînent toute une série de problèmes administratifs. Ben, ça, c'est la vie qui se passe dans les milieux populaires, et c'est tout à fait normal parce que c'est une situation qui se répète. Et c'est des choses qui ont été systématiquement négligé ou peu analysé. Alors, c'est un petit peu de ça que je voulais parler.
Mais ici, on n'a pas eu nécessairement tous les détails savoureux de la vie des mineurs. Par exemple, un élément qui était intéressant, c'était le fait de voir à quel point au niveau, pas simplement au niveau du Chili, mais au niveau international, on a eu le droit à voir le monde entier en haleine avec les caméras en direct et les retransmissions sur les chaînes internationales de ce qui était filmé au Chili. Mais aussi, peut-être le seul élément critique qu'on a pu entendre, c'était le fait que les mineurs les premières choses qu'ils ont dit, c'était qu'ils avaient demandé à sortir de la mine, et que c'est donc bien la négligence des patrons de la mine qui avait causé toute la situation. Est-ce que c'est un élément qui a été perçu médiatiquement au Chili?
Évidemment, je crois que tous les événements concernant cet événement-là vont être un peu plus couverts. Évidemment, ça faudrait être totalement insensé pour ne pas défendre les conditions des travailleurs qui ont été dans cette mine-là. Mais ce qui est là, évidemment, quand ce n'est pas un spectacle, ben on n'en parle pas. Puis on ne dit pas qu'au Chili, il y a autant de mineurs qui sont morts depuis le début de l'année qu'il y a des mineurs qui ont été sauvés durant cet événement-là. Hein, il y a 32 mineurs qui sont décédés sur le chantier, sur leur travail, dans l'exécution de leur travail depuis le début de l'année 2010 au Chili. Et évidemment, à chaque fois qu'un travailleur meurt de conditions de travail insécuritaires, ben ça, on n'en parle pas, évidemment, parce que ça fait pas un spectacle. Mais quand c'est un spectacle, quand c'est un événement un peu plus médiatique, ben là, évidemment, les médias s'empressent de se faire les grandes défenses des travailleurs. Effectivement, ce que tu dis, Blandine, est vrai. Les travailleurs avaient demandé, puis on sait que les compagnies, cette compagnie-là a été accusée de négligence par le passé. Elle était déjà en cours avant cet événement-là parce que il y a un travailleur qui avait perdu l'usage de ses jambes qui en ce moment était à l'époque de l'effondrement de la mine, était déjà dans les procédures judiciaires contre la mine pour négligence. Et puis les mêmes évidemment les mêmes propriétaires qui ne se fiaient qu'à leur qu'à leur profit et qu'à leur à leurs actions n'ont jamais vraiment perçu les dangers et voulu améliorer les conditions de la mine. Et puis il faut pas seulement accuser évidemment les propriétaires de cette mine-là, parce que au Chili c'est vraiment ce sont des conditions de travail dans le secteur minier qui sont appuyées qui ont l'appui de l'État. Il faut aussi savoir que le Cerniak Yomin, qui est un peu l'organisme régulateur des mines privées au Chili, qui doit s'assurer que toutes les normes sont respectées, avait visité la mine au cours de l'année 2009, et puis ils avaient soumis une série d'obligations. Ils avaient même fermé la mine temporairement. Ils avaient ensuite obligé les propriétaires à faire une série de modifications. Ils ont permis la réouverture de la mine San José en obligeant, en disant, avec la promesse que ses patrons allaient améliorer la sécurité, faire des mesures de sécurité, entre autres une sortie de secours, améliorer les conduites d'aération et faire en sorte qu'il y ait une sortie de secours. Et évidemment, cette mine-là, elle a continué à œuvrer durant toute l'année 2010 sans qu'absolument aucun travaux n'ait été commencé. Alors, on voit qu'il y a vraiment une complicité également des pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'ils ferment les yeux et ils ne veulent pas faire en sorte de vraiment faire respecter les mesures de sécurité. Et c'est un petit peu normal quand on sait que des inspecteurs qui doivent s'assurer la norme, des normes dans les mines. Ils étaient à peu près pour toute la région du nord du Chili, là, sont moins d'une dizaine pour s'assurer de tout le. Donc, imaginez, on parle de milliers ici de chantiers là, qui sont au Chili. C'est Chili, un pays où il y a une industrie minière très, très grande. Donc, évidemment, ça, c'est des choses, comme tu le dis, on veut pas en parler. Maintenant, les médias, je dirais pas qu'ils n'en parlent pas tout à fait. Dans le cas de la mine San José, ici, du moins au Chili, les médias, ils ont été accusés de tout. Les propriétaires, ils sont poursuivis. Puis, je dirais que les médias accusent cette mine-là. Mais ils vont pas à la mine voisine qui ont exactement les mêmes conditions. Ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas non plus que la mine qui a les meilleurs standards de sécurité, c'est la mine Codelco qui est de propriété étatique. Et sans Codelco, il n'y a pas de sauvetage à la mine San José. Et souvent, ça non plus, on l'a pas dit. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a permis au gouvernement d'intervenir? Le gouvernement a pu utiliser la compagnie publique et Codelco pour faire le sauvetage et dépenser des millions, parce que ça coûtait des millions de dollars, là, faire tout ça, le forage, les nacelles, les médecins, les psychologues, les ingénieurs qui ont travaillé jour et nuit pour ça. Eh bien, ça a été tout payé par la poche, et c'est normal que cela soit par Codelco. Mais imaginez si cette compagnie-là avait été privatisés ou s'ils avaient des comptes à rendre à leurs actionnaires, évidemment, ils n'auraient jamais accepté une compagnie privée de dépenser autant d'argent pour sauver la vie de travailleurs.
Bien, merci beaucoup, Antoine, pour toutes ces informations. Est-ce que tu aurais une source d'informations alternatives en français ou en espagnol à nous suggérer sur Internet? Peut-être pas nécessairement.
Il y a beaucoup de sources. Si vous allez sur voltaire.net, vous allez avoir en général, ou si vous parlez espagnol, rebellion.org, vous allez sûrement avoir plusieurs articles sur l'Amérique latine en général et ces questions-là.
Désolé pour la question surprise. Mais merci beaucoup pour ces informations.
La prochaine fois, je préparerai.
C'est correct. Fait qu'on te retrouve, on espère, dans quelques semaines pour d'autres chroniques avec des nouvelles d'Amérique du Sud. Et merci beaucoup pour cette chronique. On va prendre une petite pause musicale avant la suite et fin de En bas à gauche.